comme je souffrais d'une crise de fatigue cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissais avec lenteur et prudence pour me déchausser. Mais à peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s'enfla, remplie d'une présence inconnue, divine. Des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux. Je venais d'apercevoir dans ma mémoire, penché sur ma fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand-mère. Le visage de ma grand-mère. Pour la première fois depuis cette promenade où elle avait eu son attaque, je retrouvais, dans un souvenir involontaire et complet, la réalité vivante. Et ainsi, dans le désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n'était qu'à l'instant que je venais d'apprendre qu'elle était morte. Plus d'une année après son enterrement, à cause de cet anachronisme qui empêche si souvent le calendrier des faits de coïncider avec celui des sentiments. Car aux troubles de la mémoire sont liées les intermittences du cœur.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il y a dans les phrases si lentes, si musicales, si déchirantes, et pour cela immédiatement reconnaissables de Proust, quelque chose de mystérieux qui s'exhale comme le parfum ténu d'une fleur séchée entre les pages d'un livre de chevet. Quelque chose de mystérieux et pourtant d'infiniment familier, intime, et qui serre le cœur en même temps qu'il l'emplit d'une joie violente. C'est cela que ressent à chaque fois le lecteur qui ouvre au hasard, comme d'autres croyants le font avec la Bible, un volume de la recherche. Ainsi, il y a eu quelqu'un, un jour, qui a écrit, dans une petite chambre capitonnée de Liège, ces phrases qui, venues du plus loin de sa mémoire, ouvrent soudain les portes à nos propres souvenirs et font ressentir, comme il l'a écrit, au fond de soi, du plus obscur, quelque chose qui se désancre, quelque chose comme un pan de conscience émergé, lumineux. Adapté à la recherche du temps perdu, a bien souvent été pour les metteurs en scène, tant au cinéma qu'au théâtre, une sorte de défi à relever sur le mode du « même si les autres ont échoué, moi j'y arriverai ». Et trop souvent, pour les spectateurs, ce fut une épreuve. C'est pourquoi nous avons envie de dire merci, merci beaucoup à Jean Bellorini qui, avec Camille de la Guillonnière et Hélène Pataro, nous offre une merveilleuse approche, tout en délicatesse, du Proust métaphysicien de la mémoire, débarrassé de ses oripeaux de chroniqueur mondain. Sur un plateau, souvent plongé dans la pénombre, qui fait songer à une église désaffectée, ces deux acteurs subtils nous guident doucement sur les chemins du souvenir, les mots du petit Marcel racontant aussi les déchirures d'une petite fille exilée d'Indochine en 1954. Un instant sera en tournée en France jusqu'en avril prochain. Bonsoir Jean Bellorini.
Bonsoir.
Alors je sais bien que vous êtes un habitué des grands textes littéraires. Il y a eu Hugo, il y a eu Rabelais, il y a eu les frères Karamazov. C'est un goût plus pour la littérature que pour les défis. C'est surtout une croyance dans les possibilités infinies du théâtre. On dit ces textes inadaptables, intransposables. Vous nous démontrez le contraire. Mais je pense qu'avec Proust, vous avez dû vous torturer pendant pas mal d'années quand même.
On se torture souvent et toujours quand on recommence un spectacle. On commence toujours à zéro. Avec la même humilité honnête, sans savoir, évidemment. En même temps, c'était plus clair, c'est-à-dire que c'était plus explicite qu'il n'y avait pas d'incarnation possible, qu'on était vraiment dans la déclaration de la littérature au théâtre. Et en même temps, c'est donc plus clair, parce que c'est ce que je revendique, parce que je continue à croire que je cherche précisément ça au théâtre, cette liberté-là qu'on a dans la littérature. Et en même temps, bien entendu, que quand un objet théâtral arrive ou n'arrive pas, on doute, on cherche, on se demande. Et c'est vrai qu'on a été inspiré beaucoup, et ça c'est théâtral, par le personnage, par cette petite chambre dont vous parliez, couverte de liège, par sa toux, par son souffle, par le fait qu'il écrivait allongé, par tout ce qu'il fait un Proust sensible, hypersensible, délicat. Plus que le dandy dont on a pu beaucoup entendre parler.
Oui, mais Jean Bellorini, quand on voit le monument que ça représente, la recherche, vous en avez extrait une ligne directrice, un fil rouge. C'était aussi une souffrance de se débarrasser de tous les autres passages qu'on peut aimer. Quel a été pour vous, justement, ce critère qui vous a permis de sélectionner les quelques extraits, très peu, qu'on entend au long de ce spectacle qui dure 1h20, 1h30 à peu près?
Ça s'est fait en plusieurs étapes. Très tôt, j'ai décidé de laisser complètement de côté le Proust mondain, la société qui est terriblement racontée, évidemment, mais voilà, il n'y a pas les vers du Rhin, il n'y a pas tout ça. Et pour s'occuper profondément du Proust et de sa question de la mémoire et de la trace et de la recréation à travers une renaissance et en fait la mort. Très simplement, si je voulais être plus concret, j'ai des souvenirs immenses de ma grand-mère me lisant des textes. Moi, assis au pied de son lit et me lisant plein de textes, pas spécialement Proust. Quand j'arrive à ces mots de lui à sa grand-mère, j'en suis totalement bouleversé et ça m'habite depuis longtemps. Je décide de faire un spectacle sur cette question-là du deuil. Finalement, en le relisant pour l'occasion, on retrace et on sélectionne vraiment la question de la mémoire. Et donc, le fil rouge, c'est sa grand-mère. Et puis, on commence les répétitions avec Hélène Pataro. Camille de la Guillonnière, je ne le présente pas, il est plus que fidèle, il est intrinsèque à notre travail, il est, voilà, on est ensemble. On a ensemble relu à voix haute dans mon petit bureau du TGP la recherche. Et puis, on a donc sélectionné intuitivement ses souvenirs, ses réflexions sur la trace. Et on commence le travail avec Hélène. Juste bêtement, je voulais une différence de génération. Je ne savais pas si ça allait être Céleste et Marcel, ou Françoise, qui est l'équivalent de Céleste dans la recherche, et le narrateur, ou sa grand-mère et le narrateur. Et Hélène commence à nous raconter sa vie, qui elle était. Et autour de ce qui allait devenir le squelette du spectacle, les choix ont été d'une simplicité, d'une facilité bien plus grande que quand j'ai eu du mal à me débarrasser d'un petit passage de Victor Hugo dans Tempête sous un crâne ou de Rabelais, voilà.
Alors justement, l'arrivée d'Hélène Pataro dans cette aventure proustienne, Jean Bellorini, il faut quand même dire qui est Hélène Pataro, parce que pour ceux qui ont fréquenté le théâtre de Peter Brook, c'est vrai qu'on l'a vu, mais c'est quand même un personnage très mystérieux, très important dans le théâtre contemporain, et qui tout d'un coup, là, arrive avec des souvenirs de cette petite fille qu'elle a été en 1954, qui a quitté l'Indochine française. Et en fait, c'est vous nous dites que c'est au moment de la mise en plateau de votre aventure proustienne que tout d'un coup, les souvenirs d'Hélène Pataro ont recoupé, mais d'une manière assez incroyable, les souvenirs de la propre grand-mère de Proust.
Je ne peux pas vous dire comment c'est devenu conscient. D'ailleurs, j'espère avoir eu la délicatesse de ne pas lui dire trop tôt ce que je pensais qui était en train d'arriver, que le spectacle allait être un hommage évidemment à Proust et ses morts, mais en fait un hommage à sa famille, à elle. Et il s'agissait de rester délicat, de savoir jusqu'où elle accepterait de se révéler ou pas, jusqu'où la décence, jusqu'où l'amour de ces gens qui revivent à travers ce récit qu'elle en fait était entendable et pas salissant ou pas. Je voulais garder un grand respect. Hélène est une comédienne, mais extraordinaire au sens propre du terme, qui se met dans une forme d'honnêteté, d'aveu permanent de tout et tout le temps. Et donc à chaque instant de répétition, quand tout d'un coup quelque chose est fabriqué ou quelque chose n'advient pas, c'est cet aveu qui est en premier lieu qui arrive. Et donc quand elle pense à quelque chose ou quand elle cherche finalement ces personnages qui auraient ou pas perdu la mémoire, qu'on aurait mis dans cet endroit, on ne sait pas, effectivement, vous disiez église désaffectée, salle des fêtes fermée, enfin, elle attend Camille qui vient la faire parler finalement d'elle. Camille, lui, en fonction de ce qu'Hélène raconte, fait écho à Proust immédiatement. Et évidemment, Hélène, à travers le récit de sa propre histoire, dit du Proust en l'interprétant avec son âme et y compris ses différents accents. Elle raconte donc qu'elle est arrivée d'Indochine, qu'elle a été placée dans une famille d'accueil dans le Berry, donc elle a appris finalement presque à parler et à entendre le français avant le vietnamien. Et puis voilà, c'est très simple, ça paraît presque idiot. Quand je le racontais, je racontais aux gens le spectacle, quand j'essayais d'en parler, je m'entendais être presque un peu idiot. Dans la comparaison trop immédiate entre la nourriture qu'elle raconte que sa mère lui fait dans le Berry quand elle revient plusieurs années après l'avoir laissée parce qu'elle a été malade, et elle se met à lui faire la cuisine vietnamienne, et tout d'un coup Hélène, en goûtant, retrouve l'écho d'elle-même.
Alors, ce qu'il y a de formidable, justement, c'est qu'au début, on a l'impression que Camille de la Guéhonnière, qui est un peu le narrateur de Proust, arrive pour tirer les fils de la mémoire de cette femme qui est assise là et qui semble ne pas se souvenir. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte que les mots de Proust deviennent les mots d'Hélène Pataro. Mais c'est quelque chose qui est toujours suggéré, emmêlé. On ne sait jamais les mots de qui, dans la bouche de qui. On va écouter notamment ce souvenir de la recherche quand le petit Marcel grattait à la cloison qui séparait sa chambre de la chambre de sa grand-mère. C'est Hélène Pataro qui dit ces mots. Est-ce que ce sont les siens? On ne sait pas.
Et à peine que j'avais frappé mes coups, que j'en entendais trois autres répété à deux reprises pour plus de clarté. Et après, aussitôt après, eh bien, ma grand-mère arrivait. Je lui disais que j'avais eu peur qu'elle ne m'entendît pas ou cru que c'était un voisin qui avait frappé. Mais confond les coups de mon pauvre chou avec d'autres, mais entre mine, sa grand-mère les reconnaîtrait. Crois-tu donc qu'il y en ait d'autres au monde qui sont aussi bêtards, aussi fébrine, aussi partagée entre la crainte de me réveiller et de ne pas être compris? Mais quand même, elle se contenterait d'un grattement. On la reconnaîtrait tout de suite de sa petite souris, surtout quand elle est aussi fébrine et unique et à plaindre que la mienne.
Elle vous appelait ma petite souris, votre grand-mère?
Oui.
Jean Bellorini, on vient d'entendre cette fin de dialogue entre Camille de la Guéhonnière et Hélène Pataro. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir les mots circuler de l'un à l'autre, la mémoire de l'un appelée la mémoire de l'autre, et ça donne le sens de Proust, de la façon dont Proust nous parle de nous-mêmes, au plus intime de nous-mêmes.
En tout cas, ça permet objectivement de réaliser la place que chacun a à travers ses mots. Et souvent trop, on a une idée comme ça d'une écriture très française, très très distante, très savante au fond, alors que elle laisse la place à tous, à chaque instant, à chaque presque syllabe. Il y a comme ça un vertige d'humanité possible qui là concrètement permet une plongée dans la vie de l'une ou de l'autre. Mais c'est effectivement ça, tout le travail qu'on a cherché, c'était de se confondre avec les mots de Marcel Proust et de se rapprocher de soi-même aussi. C'est-à-dire que Camille, on a l'impression que lui est plus le narrateur, évidemment. Il porte plus la langue dans sa tenue et son dessin, je dirais, son rythme. Et en même temps, il nourrit et il insère aussi plein de petits morceaux de sa vie à lui, des petits bouts de son histoire, des mots, des noms de Madeleine, sa grand-mère. C'est pas la grand-mère, Madeleine n'est pas le nom de la grand-mère de narrateur, mais il l'appelle comme ça. Et voilà. Et c'était important pour moi de faire les deux chemins. C'est-à-dire évidemment qu'Hélène va vers Proust et on ne sait plus à quel moment elle est fidèle ou pas. Et Camille fait le chemin inverse. Et au fond, c'est précisément cette langue qui devient universelle, qui est la langue du soi, qui est universelle en fait à chacun. donc qui est en fait complètement intime.
Et puis Jean Bellorini, alors on a lu toutes les critiques dithyrambiques de la presse nationale. On se dit Proust, évidemment, ça fait partie de la culture, mais de la culture d'une certaine élite. Et vous qui êtes au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, ce théâtre qui s'ouvre aux jeunes de ce quartier-là, aux écoles, à ceux qui n'ont pas du tout en main les volumes de la recherche, justement, la façon dont Hélène Pataro remplace le souvenir fameux du petit Marcel et de sa Madeleine trempée dans une tisane qui est devenue une tasse de thé. Elle, Hélène Pataro, elle fait ressurgir, c'est ce que vous disiez, ses souvenirs avec les odeurs, les goûts, les saveurs de la cuisine vietnamienne, alors qu'elle a tout oublié puisque ça fait des années qu'elle a été placée très jeune dans une famille de paysans du Berry dans les années 50 où elle vit dans la paille, dans la boue et où elle ne mange que de la nourriture de la campagne de cette époque-là. Avant d'en parler avec vous, on va justement écouter le moment où elle se souvient, c'est son moment de la Madeleine de Proust. Elle, ce sont les odeurs des nems ou de la salade de papaye.
C'était la première fois que je mangeais de la cuisine vietnamienne. C'est comme si j'en connaissais déjà l'odeur, la saveur. Je n'avais pas reconnu ma mère et ma grand-mère, mais je reconnaissais le goût de leur cuisine que j'aimais.
Vous savez, quand d'un passé ancien, plus rien ne subsiste, même après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, seule l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir.
C'est beau! C'est un poème?
Non, c'est du Proust. Mais vous le connaissez, ce petit morceau? Vous le connaissez même par cœur? C'est moi qui vous l'ai appris.
Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste. Après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus fidèle, plus immatérielle, plus persistante, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste. Portés sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. C'est quoi les gouttelettes?
Les gouttelettes, pour moi, c'est comme des toutes petites sensations d'odeur et de saveur qui nous arrivent et qui ouvrent un tiroir de souvenirs.
Jean Bellorini, un instant, votre pièce autour de Proust a été donnée au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Donc, beaucoup de jeunes des écoles sont venus l'écouter. Est-ce que c'est justement grâce aussi à cette mémoire de l'Indochine en l'occurrence, cette mémoire d'ailleurs, cette mémoire de l'exil, ces saveurs de l'exil, est-ce que ça leur a permis justement à ceux qui viennent d'autres horizons de renouer avec leur propre mémoire et de se sentir partie prenante de cette pièce de la littérature française?
Bien entendu, j'espère qu'il y a une réappropriation peut-être plus immédiate et plus simple grâce à l'histoire d'une personne, qui est celle d'Hélène. Et ce qui est évident, c'est qu'il y a eu une émotion partagée et que ça parvient profondément. Et que plus d'une fois, on m'a dit « j'ai envie de lire ». Et ça, c'est peut-être le plus beau des compliments qu'on puisse me faire. Il suffit d'une personne qui sorte du spectacle, qui aille relire une page de Proust pour que ce que nous essayons de faire ait du sens. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, j'avais presque des craintes, peut-être plus qu'autrefois, de voir tous ces scolaires, certes, plutôt des lycéens hein, ou des étudiants, mais ils sont entre 80 et 100 par soir au théâtre, c'est-à-dire près d'un tiers. J'y tiens profondément dans la démarche, voilà, pour qu'il y ait des spectateurs de demain autonomes. Et ben oui, on les prend par la main un peu plus. Il n'empêche que je ne savais pas comment ce texte de Proust allait être reçu, comment même le sujet, les thématiques allaient ou pas résonner. Je savais qu'elles résonnaient très fort en moi. Je savais que j'avais été un enfant proche de ces deux grands-mères. Je savais que la mort de ma grand-mère a provoqué quelque chose de très très intense. Et j'imaginais bien que j'étais pas le seul dans ce cas-là. Mais je pensais pas, effectivement, que l'identification simple, assez directe, allait se faire avec juste ce moment-là de sa propre vie, où on a entre 16 et 17 ans. C'est arrivé, ou pas encore, ou en tout cas, il y a un rapprochement de ça qui est vrai. Alors, très objectivement, il y a tellement pas de dimension épique, si peu de dimension narrative, que comment cette dimension plus de l'ordre de la contemplation, ou en tout cas de l'évocation, allait pouvoir ou pas faire écho dans ce rythme suspendu, dans ce spectacle où on essaye de s'écouter profondément soi, en fait. Et comment voilà, tous ces jeunes gens allaient se l'autoriser ou pas. Il se trouve que si, grâce évidemment à la sensibilité des acteurs, grâce à l'histoire d'Hélène, sûrement, grâce à plein de choses, mais sûrement d'abord grâce à Proust, grâce à cette tendresse, grâce à la liberté, grâce au silence permis et la place faite à soi, en fait, c'est une évocation. Et c'est en ça que pour moi c'est, comment dire, une déclaration d'amour au théâtre, un hommage au théâtre, que de faire entendre ces mots de Proust. C'est pas une idée de faire entendre Proust au théâtre ou la littérature, bien sûr que j'aime. Mais là, peut-être que dans ce choix-là, et c'était assez inconscient, j'avais encore envie, encore plus fort, de dire à quel point le théâtre, pour moi, devait être et doit être le lieu de l'évocation, donc le lieu de la liberté, et donc le lieu de l'autonomie, de la libre pensée, de la libre sensation de soi.
Et qu'est-ce que vous faisiez pendant les vacances dans le Berry ?
Je gardais les vaches.
Vous gardiez les vaches ?
Je faisais des bouquets de fleurs.
Faisiez des bouquets de fleurs ?
Oui, avec des violettes, des pâquerettes, des boutons d'or, des coquelicots, des bleuets, des marguerites, des primevères, des tulipes, des jonquilles,
des aubépines,
des chrysanthèmes, des camélias, des roses blanches, des renoncules,
des églantines,
des orchidées, des fleurs de framboisier, des solanums, des clématites,
des nymphéas,
des soleils, des lavandes, dahlias, capucines,
des digitales,
campanules, mimosas, nénuphars, narcisses, angéliques, colchiques, fraisias, amaryllis, pommiers en fleurs, impatience, violettes noires, pensées immortelles.
Thank you.
Vagabonde sur France Inter.
Jean Bellorini, on entend, comme d'habitude dans vos spectacles, la présence assez prenante de la musique. Sur scène, Jérémy Perret, votre habituel complice, compositeur, musicien, qui compose et qui joue aussi. Il y a des morceaux de musique qu'on reconnaît, il brode autour. C'était important aussi d'avoir ce souffle-là de la musique. Bon, on sait que chez Proust aussi, c'est important.
Certes, ça c'est sûr.
Mais on n'entend pas de César Franck.
Non, ni de César Franck, ni d'autres amants. Finalement, la musique, il y a presque plus que d'habitude de la musique enregistrée à laquelle vient s'ajouter ce guitariste. Et c'est comme les objets, c'est comme un vêtement. Il y a une âme figée et il y a une réanimation vivante et qui vient ce supplément d'âme que donne bien entendu l'instrumentiste. Mais voilà, c'est ce rapport entre l'existant et l'immatériel. Enfin, c'est évidemment ce dont parle Proust.
Mais d'ailleurs, Jean Bellorini, moi, c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous remercier, c'est que dans ce monde dans lequel on vit, où tout est hurlé généralement, où tout est brouillé, où tout se bouscule, alors Proust, le temps, bien sûr, mais votre spectacle, il nous donne le temps d'entendre les mots dits, d'entendre les mots non dits, ceux qu'on se répète à l'intérieur de soi. Le temps circule, le silence est là aussi, les deux acteurs déambulent, parfois ils sortent de scène, on entend leur voix et ils reviennent. C'est une place immense donnée à la mémoire du spectateur, à sa présence, à sa propre réflexion. J'imagine que pour vous, c'est pas non plus innocent de nous donner ce spectacle-là dans un moment où on n'a plus le temps de s'entendre penser.
Sûrement, je n'oserais pas le dire de manière consciente. On fait toujours tout en réaction, de toute façon, à ce qu'on est, à ce qu'on vit, à ce qu'on sent. Et c'est sûr que l'accélération permanente, le jusqu'au boutisme d'une certaine fatigue du monde, on doit s'en extraire de temps en temps. La lecture fait partie de ces moments privilégiés. Le théâtre, je crois, doit absolument aussi permettre ces temps-là, et peut-être un tout petit peu moins faire en sorte que le théâtre ressemble au rythme de notre vie. Peut-être qu'il doit ressembler un peu plus au rythme de nos rêves, en tout cas au rythme de notre demi-sommeil, comme Proust pouvait déclarer qu'il écrivait. Alors, je sais pas si c'est conscient, en fait. Je sais qu'une fois que le spectacle existe, je peux le dire. Je sais pas si j'avais exactement conscience de cette réaction-là. Et il n'empêche que oui, j'ai rarement dit à des acteurs autant qu'il fallait presque pas prononcer le texte. Fallait prononcer la respiration derrière le texte. Fallait laisser apparaître l'image. Mais dès qu'on c'était presque l'anti-Hugo. Et avec Camille, Dieu sait si on a travaillé sur Tempête sous un crâne et à le déclarer, à le déclamer, à le porter, à le nourrir, à le phraser. Et là, étonnamment, dès que l'acteur le donne avec un peu trop d'animation, c'est étrange, hein, comme s'il était un peu trop acteur. Il s'agit pas du tout d'être juste ou pas juste. Il s'agit vraiment de lui donner, de le porter. Et ben, ça le tue. Il faut le transporter un peu à l'image de ce baiser auquel fait référence Proust, le narrateur, qu'il attend, qu'il prend ce baiser le soir, il l'amène dans sa chambre et il faut le garder avec toute sa saveur, toute sa douceur. Là, c'est la même chose. On passe ce texte, on le met en vie, en vibration, on le prononce avec toute la douceur du monde pour que la force, elle apparaisse juste derrière. Et bon, bah ça aussi, c'est sûrement en contraste avec le monde d'aujourd'hui où il faut un peu crier clair si on veut se faire entendre.
Alors, il y a aussi ce sentiment que fait si bien passer l'écriture de Proust, c'est de pouvoir préserver en nous, adultes, cet enfant que nous avons été, avec la puissance des émotions que l'on ressentait à l'époque. Après la scène du baiser très longue dans Proust et que Camille de la Guillonnière raconte, la mère qui tarde, l'enfant qui pleure, le père qui dit à la mère « Va donc dans la chambre du petit » et l'adulte qui se souvient.
La muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps. En moi aussi, bien des choses ont été détruites, que je croyais devoir durer toujours. Et d'autres se sont édifiées, faisant place à des joies et à des peines nouvelles, que je n'aurais pu prévoir alors. De même que les anciennes me sont devenues difficiles à comprendre. Il y a bien des années, aussi, que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra plus pour moi. Mais depuis quelque temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, ces sanglots que j'eus la force de retenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seul avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau. Comme ces cloches de couvent que couvre si bien le bruit des villes pendant le jour qu'on les croirait arrêtées, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir.
Jean Bellorini, au fond, tout ce que dit Proust et ce que dit ce spectacle, un instant, c'est qu'il faut vivre avec la mort et que le souvenir est le seul moyen de nous guérir de cette maladie dont on revient, dit-il.
Le spectacle se termine effectivement comme ça. Je ne sais pas si on revient de cette maladie.
Le théâtre est peut-être le lieu qui nous permet de revenir de cette maladie.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est tous faits, fabriqués de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a aimé, de tout ce qu'on a rencontré, et donc de tout ce qu'on a perdu. Et cette vibration-là, elle reste présente, elle reste totalement... Elle existe. Dans chacun de nous, il y a les êtres aimés et les êtres chéris. Et ce spectacle est fait pour ça. Le théâtre, peut-être, au fond, est la réanimation de tout ça. Proust dit qu'il aurait voulu faire constater aux sceptiques que la mort est une maladie dont on revient. Je ne sais pas si nous sommes tous des sceptiques, mais je sais que le plaisir, le moment constructif que c'est de se retrouver soi-même et de faire ce petit écho, ce petit point sur sa vie, en lien avec tout ce qu'on est profondément et tout ce qu'on a été, et c'est des moments importants. Et le théâtre, je crois, fait partie de ces moments-là.
Et puis, on en revient au temps que l'on traverse. C'est vrai que le théâtre, on peut se dire, en ce moment, dans ces temps si agités, où chacun a perdu la croyance en quelque chose d'ancien, où le théâtre est peut-être justement, comme vous le dites, Jean Bellorini, le lieu où on peut s'assembler, se retrouver et communier d'une certaine manière, d'une manière laïque, autour de pensées, d'émotions, de textes aussi, qui font lien dans cette communauté qui se délite.
Je ne sais pas si tout se délite, tout apparemment se délite. Et on manque de temps pour empêcher ça. On manque peut-être de références sûrement, mais de temps de construction de ces références. Et c'est aussi ça que nous rappelle Proust, c'est que toute cette mémoire active, involontaire, qui arrive par hasard, elle est tellement honnête que bouleversante. Elle nous bouleverse, elle nous rend vivants, en fait. J'espère faire du théâtre pour rendre les gens un peu plus vivants. C'est pour faire écho à soi, en fait. Chaque soir, je suis très très surpris et touché par l'émotion qui est partagée, qui n'est pas une émotion... on n'est pas tous touchés par quelque chose que l'on voit, on est touché de se retrouver. Et tous les gens qui me parlent en sortant du spectacle me parlent de leur émotion qui est différente d'un moment, c'est jamais le même moment dont on me parle. Que ce soit une fleur prononcée qui fait écho à quelque chose, que évidemment la grand-mère, que la mère, que toutes les impressions sont différentes. Et c'est ça aussi la force, quand même, au même titre que la littérature. Sauf que là, on le partage avec 400 personnes autour de soi. et on ne vit pas exactement le même chemin, on n'est pas transformé par le même mot, on n'est ému pas au même moment, et en même temps on sent les êtres autour de soi. Et ça, bah, y a peut-être que le théâtre qui le permet encore.
Et la qualité du silence à la fin des mots de Proust.
Nous disons bien que l'heure de la mort est incertaine, mais quand nous disons cela, nous nous représentons cette heure comme située dans un espace vague et lointain. Nous ne pensons pas qu'elle ait un rapport quelconque avec la journée déjà commencée et puisse signifier que la mort, ou sa première prise de possession partielle de nous, après laquelle elle ne nous lâchera plus, pourra se produire dans cet après-midi même. Cet après-midi où l'emploi de toutes les heures est réglé d'avance. On tient sa promenade pour avoir dans un mois le total de bonheur nécessaire. On a hésité sur le choix d'un manteau à emporter. On est en fiacre. La journée est tout entière devant vous. Courte parce qu'on veut être rentré à temps pour recevoir une amie. On voudrait qu'il fût aussi beau le lendemain. Et on ne se doute pas que la mort qui cheminait en vous dans un autre plan, au milieu d'une impénétrable obscurité, a choisi précisément ce jour-là pour entrer en scène. Dans quelques instants.
Voilà, un instant d'après à la recherche du temps perdu de Marcel Proust avec Camille de la Guéonnière et Hélène Pataro dans une mise en scène de Jean Bellorini et de Camille de la Guéonnière. Sera en tournée en France jusqu'au mois d'avril, en mars, à Marseille, Perpignan et Caen, ensuite Béziers. Merci à vous Jean Bellorini, merci pour cette mise en scène, merci pour Proust, merci pour le théâtre.
Merci à vous, vraiment.
Et bonne tournée à vous, au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.